Audiolib présente Les piliers de la mer de Sylvain Tesson. Lu par Thierry Blanc. À mon père, Philippe Tesson, 1928-2023, qui avait horreur du vide. Je venais là, oublieux de moi-même, et en échange de mon néant, j'ai reçu de la poésie. Jean Grenier, Inspiration méditerranéenne. Examinons d'abord la question en nous plaçant au point de vue le plus élevé. Honoré de Balzac, Traité des excitants modernes. Chapitre 1. L'aiguille en plein cœur. Quand on se prétend aventurier, il est vexant de vivre au XXIe siècle. La surface du globe est cartographiée. À chaque plage, son plagiste. Pas une source sans sa mise en bouteille. Pas un scarabée sans son département au muséum. On va au désert de Gobi comme au bassin d'Arcachon. Y a-t-il seulement un être humain sur la Terre qui ne connaisse pas l'existence de la Grande Motte? Des optimistes contrediront. Il y a un sommet vierge dans les confins afghans. Rien n'est moins sûr. Parfois, des alpinistes parviennent sur une montagne persuadés de déflorer le sommet. Un anonyme les y a précédés, laissant son fanion. L'homme a triomphé de la géographie. Il s'est répandu partout. Depuis la pierre taillée, il en a eu le temps. Conscient que la Terre a rendu ses derniers secrets, le pauvre terrien de notre siècle tourne son regard vers les étoiles. « Là-haut, » murmure-t-il. Il rêve. Un jour, peut-être, un astronaute imprimera-t-il son pas sur un sol intouché. En attendant, on fait la queue pour grimper l'Everest. Non, vraiment, je ne suis pas rétrograde, mais il me naît des nostalgies de l'époque où il suffisait de sortir de sa grotte pour s'enfoncer dans l'inconnu. Au paléolithique, supérieur si possible, bien des problèmes se trouvaient résolus de ne point même exister. J'en étais là de ces réflexions, accoudé au comptoir de mon âme, quand je tombais sur un exemplaire de poche de « L'aiguille creuse » de Maurice Leblanc. En couverture, gentiment bariolée dans le genre kitsch de nos enfants aimables des années 70, l'aiguille d'Étretat. Elle se dressait fièrement dans l'eau joyeuse. Les peintres impressionnistes s'étaient épris d'elle. Arsène Lupin en avait fait son repère. Le rocher était friable, l'aiguille en passe de s'écrouler. Très peu d'êtres humains en avaient foulé le sommet. Il était plus facile de la peindre. Tout cela constituait un faisceau de raisons d'aller voir. Il y avait là-haut un espace préservé. Peut-être aurait-on l'impression de toucher une terra incognita. Je réunis une troupe de gentils notonniers. L'objectif était de grimper l'aiguille à l'aube. Philibert fournirait le canot, Olivier les vivres. Dulac, escaladeur hors pair, conduirait l'opération. Avec eux, la fine équipe. On part une nuit d'automne. Au matin, à l'heure des chalutiers, on met le canot à l'eau, on souque ferme. À tribord passe l'arche de la Manneporte, la valeuse de Jambourg. Plein est, l'aiguille d'Étretat. Le soleil se lève. La mer pétille, les faces de craie s'éclairent. Philibert nous dépose au pied de l'aiguille. Dulac et moi quittons le canot muni de cordes. On se cramponne au bigorneau. Philibert s'écarte à la rame pour cacher l'esquif de l'autre côté de la porte d'aval, dans l'antre naturel du trou à l'homme. On le rejoindra plus tard, à la nage. Pour l'instant, on escalade. On essaie d'être digne des visions de Maupassant. Les parois d'Étretat sont praticables aux femmes hardies et aux hommes très souples et très accoutumés aux falaises. Il nous faut une heure pour le sommet, à 55 mètres d'altitude. Les silex se déchaussent du calcaire. On trouve des pitons rouillés. On nous a précédés. 8 heures. La marée monte. L'aiguille vibre. Les falaises miroitent. On se tient à la pointe.